Bienvenue sur RFI, si vous nous rejoignez, il est 22h en temps universel, minuit à Paris.
24h en France sur RFI.
Et on est ensemble pour une demi-heure d'actualité 100% française.
Sophie Pouzerat.
Et la une de l'actualité, les réactions politiques s'enchaînent après le viol d'une jeune fille de 12 ans parce que juive. Ce drame a eu lieu alors que les actes antisémites sont en hausse dans le pays et à moins de 2 semaines des élections législatives. Et c'est dans ce contexte qu'un tweet antisémite publié par un candidat du Rassemblement National en 2018 a été ressorti par le journal Libération. Le RN a réagi, il annonce qu'il ne soutient plus ce candidat. Dans l'actualité également, plusieurs indépendantistes arrêtés en Nouvelle-Calédonie après les violences qui ont secoué l'archipel français il y a plusieurs semaines. Le collectif indépendantiste CCAT dénonce une provocation. Et puis des composants électroniques français présents dans des drones israéliens, c'est ce que révèle Document à l'appui, le média indépendant Disclose. On en parle tout à l'heure dans ce journal. Voilà pour les titres, bienvenue dans 24 heures en France.
24 heures en France.
Depuis les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, les actes antisémites sont en forte hausse en France. Et la question de l'antisémitisme a été un thème d'affrontement dans la classe politique. Alors dans ce contexte, le viol en réunion par des adolescents à Courbevoie d'une jeune fille parce qu'elle était juive a provoqué de nombreuses réactions politiques à moins de 2 semaines du premier tour des élections législatives anticipées. Valérie Gasse.
Le crime est odieux et sordide. La victime n'a que 12 ans et a été traitée de sale juive. Dès que les faits ont été connus, les responsables politiques se sont indignés. Emmanuel Macron a dénoncé le fléau de l'antisémitisme. Le patron des socialistes, Olivier Faure, une horreur. Jean-Luc Mélenchon s'est dit horrifié par ce viol et ce qu'il révèle du racisme antisémite. Le chef des Insoumis, dont les déclarations depuis les massacres du 7 octobre en Israël ont souvent été jugées ambiguës sur l'antisémitisme par ses adversaires politique. Jordan Bardella, le président du RN, a d'ailleurs dénoncé le contexte dans lequel le drame est survenu.
Se diffuse et se développe de manière extrêmement inquiétante depuis le 7 octobre dans notre pays, un antisémitisme d'atmosphère qu'il nous faut combattre, que la République devra évidemment combattre sans faiblir.
Et comme pour lui répondre, Gabriel Attal a promis sur TF1 la fermeté pour les mineurs auteurs du viol et a demandé aux dirigeants politiques de la responsabilité.
J'appelle véritablement l'ensemble des responsables politiques à mettre des digues sur la question de l'antisémitisme. Assez des discours qui banalisent, assez des propos qu'on tolère, qui installent dans le pays un climat qui, je le dis, est mortifère.
Cette affaire projette la question de l'antisémitisme dans la campagne des élections législatives.
Valérie Gasse, et vous l'avez entendu, le Rassemblement national se veut très présent sur cette question de l'antisémitisme. Il a par ailleurs retiré son soutien à l'un de ses candidats dans le département du Morbihan, quelques heures après l'excavation par le journal Libération d'un tweet antisémite publié par ce dernier, c'était en 2018. Le RN précise toutefois qu'il ne peut plus retirer sa candidature 2 jours après la date légale pour s'enregistrer en préfecture. Écoutez, le président du parti, Jordan Bardella.
Je n'ai aucune forme de tolérance à l'égard de ce type de propos. Les personnes qui ont des propos qui sont contraires à la ligne politique que je porte et à celle que porte le Rassemblement National ne siégeront pas dans le groupe du Rassemblement National. Vous savez que les investitures ont été faites par dizaines et par centaines en quelques heures dans toute la France. Et ce qu'il faut juger, je crois, c'est la capacité d'un mouvement politique à réagir aux comportements ou aux propos qui sont parfois contraires à sa ligne politique. C'est vrai avec le Rassemblement National, mais j'aimerais que ça soit vrai avec toutes les autres formations politiques. Et aujourd'hui, moi, je vois une mouvance politique d'ultra-gauche se constituer, se réunir autour de M. Mélenchon, de M. Poutou, de M. Hollande, et réunir en son sein des gens qui sont fichés S et qui tiennent des propos qui flirtent avec l'antisémitisme.
Jordan Bardella, président du Rassemblement National, au micro de Pierrick Bonneau. Le Rassemblement National, par ailleurs condamné dans l'affaire des kits de campagne, s'est validé par la Cour de cassation. La plus haute juridiction française a rejeté les pourvois du parti et de proches de Marine Le Pen dans cette affaire. Pour appel, jugé en appel pour recel d'abus de biens sociaux en mars 2023, le RN avait été condamné à une amende de 250 000 euros, condamnation confirmée donc par la Cour de cassation. En pleine campagne pour les élections législatives anticipées. Et du côté du camp présidentiel, Emmanuel Macron lui-même alimente la campagne de ses propos. Le chef de l'État a une nouvelle fois ciblé le programme du nouveau Front populaire, notamment la mesure qui propose d'autoriser le changement d'état civil libre et gratuit devant un officier d'état civil pour les personnes transgenres. Une mesure qualifiée de complètement ubuesque par le président et les réactions n'ont pas traîné. Les propos d'Emmanuel Macron ont aussitôt été condamnés par la gauche et par des associations LGBT. Elles se disent atterrées par, je cite, ce glissement dangereux dans un contexte de transphobie. En Nouvelle-Calédonie, le procureur de la République annonce une série d'arrestations dans les milieux indépendantistes 5 semaines après le début des violences qui ont secoué l'archipel français du Pacifique Sud. Le CCAT, le collectif indépendantiste qui a toujours démenti être à l'origine des émeutes, dénonce lui une provocation, Marie-Casa Debé.
Il est 6h du matin, heure locale, ce mercredi, quand la gendarmerie interpelle 11 personnes à Nouméa, la capitale de l'archipel, et Mondor, une ville voisine. Parmi elles, Christian Tain, le responsable de la cellule de coordination des actions de terrain, la CCAT. Un collectif né fin 2023 qui regroupe syndicats, mouvements politiques et associatifs. Au troisième jour des violences, après la mort d'un gendarme, Gérald Darmanin le pointe du doigt. Pour le ministre français de l'Intérieur, la CCAT est l'instigatrice des émeutes. Il la qualifie même d'organisation mafieuse. L'arrestation des 11 suspects a été réalisée dans le cadre d'une enquête pour association de malfaiteurs, vol avec armes en bande organisée, complicité de meurtre ou tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Au vu de la gravité des faits, leur garde à vue peut durer jusqu'à 96 heures. Au cours de ces 5 dernières semaines, 9 personnes ont trouvé la mort en Nouvelle-Calédonie, dont 2 gendarmes. On compte également des centaines de blessés et des dégâts évalués à 1,5 milliard d'euros.
Les précisions de Marie-Casa Debé. Sur fond de guerre à Gaza, des composants électroniques français présents dans des drones israéliens, c'est ce que révèle document à l'appui le média indépendant Disclose. L'industriel français Thales produit les pièces en question qui viennent équiper les drones Heron fabriqués par la firme israélienne Elbit. Alors la France vend très peu d'équipements militaires à l'État hébreu, mais toujours est-il que la livraison de ces composants a eu lieu et qu'elle pose problème. C'est ce qu'explique la journaliste Ariane Lavrieux de Disclose. Écoutez.
La France, déjà, elle s'est engagée publiquement auprès des citoyens, auprès des parlementaires, à ne pas exporter, à ne pas vendre d'armes à Israël, à ne pas vendre des composants même qui pourraient être utilisés dans des armes qui servent dans le conflit. Or là, on découvre que c'est bien le cas. Donc déjà, il y a un problème de confiance, il y a un mensonge de la part du gouvernement. Et ensuite, il y a un problème de droit international, puisque l'État français s'est engagé dans plusieurs traités, notamment le traité sur le commerce des armes, à ne pas vendre d'armes à des pays qui pourraient l'utiliser pour commettre des crimes contre des civils. Là, dans le cas présent, on est dans le cadre d'un conflit où un pays commet des crimes de guerre, perpétue des attaques contre des civils. C'est documenté par la Cour internationale de justice, par un certain nombre de journalistes, de rapports, etc. Donc ces faits sont non seulement connus du gouvernement, mais en plus sur la place publique.
Ariane Lavrieux, journaliste de Disclose, a répondu à Nicolas Falaise. Et selon les informations de Disclose, ce sont 8 transpondeurs de la société Thales qui ont été commandés pour équiper les drones israéliens. 2 seulement ont été livrés, ce qui indiquerait que ce contrat a été bloqué, mais sans explication officielle française à ce stade. La France, épinglée par Bruxelles pour la tenue de ses comptes, la Commission européenne a tranché ce mercredi et l'État français est bien en infraction aux règles budgétaires de l'UE, tout comme 6 autres États membres comme l'Italie, la Belgique ou encore la Hongrie. Cette annonce, elle intervient alors que les promesses de dépenses se multiplient dans l'Hexagone dans le contexte des élections législatives. Dans l'actualité française également, le policier municipal qui a tué l'homme qui avait agressé au tournevis un agent de propreté et un autre policier ce mercredi matin à Aubervilliers a été placé en garde à vue. C'est le procureur de Bobigny qui l'a annoncé dans un communiqué de presse. Âgé de 47 ans, cet homme qui vivait dans la rue a été mortellement touché au thorax par le policier municipal. Dans la matinée, il avait porté 5 coups de tournevis à un agent de propreté, ce qui avait entraîné l'intervention des forces de l'ordre, d'après le parquet. On va s'intéresser maintenant au groupe Total Energies, régulièrement sous le feu des critiques pour le poids des hydrocarbures dans le réchauffement climatique. Le géant pétrolier français a fait l'objet d'une commission d'enquête sénatoriale dont les conclusions ont été détaillées ce mercredi. Une liste de 33 propositions pour veiller à ce que Total Energies soit bien en phase avec les ambitions climatiques de la France. Les ONG environnementales saluent certaines recommandations, mais déplorent le manque de mesures contraignantes. Je vous propose d'écouter Juliette Renaud, elle est coordinatrice de l'association Les Amis de la Terre.
Clairement, les recommandations ne vont pas assez loin. La majorité sénatoriale a quand même essayé de tuer en partie l'ambition du rapport. Donc nous, on pense qu'elles ne sont pas assez ambitieuses. On aurait aimé qu'il y ait bien plus en termes de régulation par l'État de Total, en termes aussi de mettre fin à la diplomatie économique de l'État français en soutien à Total. Rien n'est dit non plus sur des projets tels que le projet ICOP en Ouganda. Mais ceci dit, il y a certaines préconisations plus concrètes qui nous semblent intéressantes. Les rapports de la commission d'enquête recommandent d'inclure le gaz naturel liquéfié russe dans le paquet de sanctions européennes. Voilà, il y a un certain nombre de constats aussi qui sont plus forts que ce qu'il y a dans les recommandations elles-mêmes. Et donc maintenant, à l'État d'agir suite à ce rapport.
Juliette Renaud de l'association Les Amis de la Terre, elle était jointe par Margot Ratézic. Et j'ajoute que la Cour d'appel de Paris a validé mardi un recours contre Total Energy sur le devoir de vigilance. C'est une mesure qui oblige les multinationales à publier un plan sur les risques humains et environnementaux de leurs activités. Et puis, les épreuves du baccalauréat se poursuivent. En France, ce mercredi, c'était les épreuves de spécialité qui ont commencé. Et bien, à ce propos, de moins en moins de filles choisissent des matières scientifiques comme les mathématiques ou la physique-chimie depuis la réforme du bac de 2019. C'est ce que déclare un collectif d'associations d'enseignants et chercheurs. Et il alerte sur ce phénomène en évoquant, je cite, « un problème majeur et persistant au fil des ans ». C'est la fin du journal 24 heures en France. Ça continue tout de suite avec notre invité.
« 24 heures en France. Sophie Pouzrat.
Alors qu'il est en pleine campagne pour les législatives anticipées, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, assure qu'il n'entend pas remettre en cause les engagements pris par la France sur la scène internationale. Jordan Bardella précise donc ses positions. Il a notamment tenté de dissiper les doutes sur la réforme des retraites. Il s'est engagé à l'abroger à partir de l'automne en donnant la priorité aux carrières longues. Et quant à la dispersion de la TVA sur les produits de première nécessité, elle attendra un audit. Alors en vue d'une éventuelle arrivée au pouvoir, est-ce que le RN ne revient pas sur une partie de ses promesses? La question a été posée à Jeanlin Lacapelle, porte-parole du Rassemblement national et candidat dans le Loiret aux élections législatives. Il répondait à Nathalie Amar.
Il y a donc le temps des urgences et le temps des réformes qui aura lieu à l'automne, c'est-à-dire dans 3-4 mois. Donc les urgences, c'est la baisse de la TVA de 20 à 5,5% pour les produits d'énergie. C'est une promesse de campagne, elle sera tenue. C'est également la possibilité de sortir provisoirement des règles du marché européen, de manière aussi à redonner un prix français à l'électricité notamment, et à baisser nos factures d'électricité de 30%. Deuxième promesse tenue. Quant ensuite à la suppression de la TVA sur une liste de 100 produits de première nécessité, il a remis ça à l'automne. Cette promesse, elle n'est pas du tout remise en question. Elle n'est pas dans l'urgence. Elle sera donc bien mise en place plus tard, mais dans un premier temps, puisque je rappelle quand même que nous avons le record du déficit, que nous avons 3300 milliards aujourd'hui de déficit, dont 1300 milliards qui sont sous la responsabilité de M. Macron et de M. Le Maire, eh bien nous demanderons un audit, la transparence des comptes, parce que la transparence n'a pas lieu, afin de savoir ce que nous pouvons faire aujourd'hui et ce que nous devons reporter de 3, 4 ou 6 mois. Le temps de trouver aussi des ressources, et des ressources, on en a des pistes.
Alors cet audit des finances publiques, c'est aussi ce qu'invoque Éric Ciotti, votre partenaire issu des LR dans ces législatives, pour déclarer « rien ne dit que la réforme des retraites soit abrogée ». En gros, il faudra voir selon, encore une fois, l'état des finances publiques. Jordan Bardella, lui, dit « abrogation à partir de l'automne ». C'est lui qui a le dernier mot ?
C'est Jordan Bardella qui donne et qui fixe la ligne politique.
Et donc les partenaires de la coalition n'ont pas voix au chapitre ?
Non, mais il y a un certain nombre de points sur lesquels nous sommes d'accord, sur la sécurité, sur le pouvoir d'achat, sur l'immigration.
Maintenant, mais la question de la réforme des retraites n'a pas été négociée et discutée avant le ralliement d'Éric Ciotti
au RN. Non, donc Éric Ciotti n'a pas là-dessus à s'exprimer, ou il a le droit bien avant de donner son avis. Il est un allié de cette plateforme électorale que nous sommes en train de créer pour constituer demain un gouvernement d'union nationale. C'est Jordan Bardella qui donne le là. La réforme des retraites sera abrogée. Il l'a dit dans un premier temps, elle sera destinée à la France qui travaille, c'est-à-dire les jeunes qui ont travaillé, qui ont commencé à travailler à moins de 20 ans. Et quand ils auront leurs 48 annuités, ils pourront partir à la retraite à partir de 60 ans. Et puis ensuite, les autres progressivement jusqu'à 62 ans. C'est une promesse qui sera tenue, que nos alliés ou non soit d'accord.
Sur l'immigration, Jordan Bardella promet une loi d'urgence pour réformer le droit du sol. Jeanlin Lacapelle, touché à ce droit très ancien qui fonde depuis des décennies la République, ça peut se faire pour vous avec un simple projet de loi et en urgence?
Bien sûr, mais vous savez...
Ça n'appellerait pas, par exemple, une réunion du Congrès
mais
pour laquelle il faudrait d'ailleurs une majorité.
Le gouvernement l'avait prévu et l'avait décrété pour Mayotte. Donc ça peut bien évidemment se faire à l'ensemble du territoire et de manière extrêmement rapide. C'est une question de volonté politique. Il y a des sujets comme cela que nous mettrons en place très vite. C'est le renforcement, bien sûr, des contrôles aux frontières. C'est la suppression du droit du sol, bien évidemment. Je crois qu'autour de la sécurité, Jean-Louis Mandela a aussi annoncé qu'il supprimera les allocations familiales, par exemple, aux familles d'enfants récidivistes, comme il instaurera les peines planchers pour l'ensemble des délinquants récidivistes et notamment les agresseurs de policiers ou de gendarmes.
Vous évoquez également le remplacement de l'aide médicale d'État par un fonds qui ne couvrirait que les urgences vitales. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Comment est-ce qu'on distingue
Cela veut dire que il y a un tiers de Français qui n'arrivent pas aujourd'hui à se soigner, qui n'ont pas les moyens de se soigner, et nous accordons, et ça coûte 1 milliard aux Français, nous accordons une couverture médicale à tous les clandestins, parce que on parle bien de clandestinité, de gens qui viennent sur notre territoire illégalement et qui ont cette couverture médicale pour quelquefois des soins absolument bénins.
Jeanlin Lacapelle, porte-parole du Rassemblement National, candidat dans le Loiret aux élections législatives. Il répondait à Nathalie Amar sur RFI.
Reportage France.
Depuis l'an dernier, c'est la coqueluche de la natation française. Léon Marchand, quintuple champion du monde, pourrait bien devenir l'une des stars des Jeux Olympiques de Paris 2024 dans les bassins. Mais pour ça, il va devoir passer obligatoirement par Chartres, à 80 km au sud-ouest de Paris, où se tiennent actuellement les championnats de France de natation pour valider sa qualification dans 4 épreuves. C'est déjà fait dans 3 d'entre elles. Lundi, c'était le 400 mètres 4 nages. Et ce mercredi, c'était sur 200 mètres papillon. Et le 200 mètres brasse, le tout devant un public conquis. Reportage à Chartres de notre envoyé spécial Christophe Diremzio.
1 minute 57 secondes, 90 centièmes, Léon Marchand.
Ces jours de marathon et de défi pour le nageur français le plus en lumière. Dès la session du matin, double ration de longueur, 2 qualifications olympiques à aller chercher pour le phénomène. Des smartphones brandis dans les tribunes pour filmer la star. Cana et Edouard, apprentis nageurs, viennent admirer en chair et en os.
Je viens de le voir pour la première fois, sinon je vais regarder par rapport à des vidéos.
Je trouve qu'il est très bon et que je m'inspire un peu de lui. J'essaie de faire à peu près pareil.
Observateur à l'œil plus aiguisé, Rodolphe Vernillet, ancien nageur et membre des Vikings de Rouen, apprécie les qualités techniques du nageur vedette.
C'est une personne qui s'applique énormément sur des phases très importantes qui sont le départ, la coulée, toutes les reprises de nage, ce qui lui laisse peu de distance à faire en nage pur. C'est une phase de la natation qui, pour moi, devrait être travaillée plus souvent chez les jeunes, parce que c'est des phases qui sont dures peut-être, mais des phases où on peut gagner beaucoup de temps.
Du temps, Léon Marchand n'en a pas beaucoup. Échauffement, récupération, l'enchaînement des courses oblige à tout minuter. Pas encore le temps d'aller à la rencontre des fans depuis son retour en France, même s'il a conscience d'un certain engouement autour de lui.
Oui, je le sens. Après, je n'ai pas trop profité, je ne suis pas allé vraiment en public à Toulouse, donc je n'ai pas vraiment ressenti tout ça. Je ne me suis pas vraiment préparé concrètement. Mais voilà, j'ai fait l'expérience l'année dernière et je pense qu'il faut que je sois un peu plus naturel avec tout ce qui se passe autour, avec les médias, avec la pression, avec les gens qui m'en parlent aussi. J'ai une semaine assez intense quand même, donc je vais me focus sur ça.
Et avec le temps de 1:54.08, Léon Marchand a établi un temps éligible à la sélection aux Jeux Olympiques de Paris.
Et pour l'instant, c'est un sans faute. 3 objectifs, 3 portes ouvertes sur l'aréna de la Défense, site des futurs exploits de la natation au JO, et la satisfaction d'avoir su enchaîner victorieusement 200 mètres papillon et brasse en moins d'une heure.
C'est des choses qu'il n'y a pas beaucoup de monde font, je pense. 200 pas, 200 brasse, c'est un duo assez bizarre, j'ai envie de dire. Et j'adore tout ce qui est bizarre. Et c'est cool de pouvoir changer de nage comme ça. Et voilà, aller chercher de ce genre de choses, ça me fait beaucoup de confiance pour la suite.
Mais après le plongeon dans le grand bain, Léon Marchand prend enfin le temps d'un petit bain de foule, séance de dédicace improvisée.
Bon anniversaire.
Mao reçoit sa photo signée comme cadeau d'anniversaire pour ses 11 ans. Il en pleure de joie.
C'est peut-être pas le plus beau, mais un des meilleurs jours de ma vie. Ça fait vraiment un choc de le voir ici et de près surtout. Il était incroyable. Et il est qualifié au JO et ça va être trop bien.
Modèle inspirant comme l'ont été Laure et Florent Manoudou, Alain Bernard ou Camille Muffa, Léon, le marchand d'espoir d'une natation française en pleine remontée des sommets, attend désormais les Jeux avec envie pour conquérir définitivement les cœurs. Christophe Diremzian, Chartres, RFI.
Et à l'écoute de la radio internationale, il est 19h19 à Paris, 9h19 à Nouméa.
Le journal de l'Outre-mer.
Le journal des Outre-mer présenté par Odane Agiali. À la une, l'interpellation en Nouvelle-Calédonie des leaders de l'organisation à l'origine du mouvement de contestation. Bonsoir Odane.
Bonsoir. Christian Théin, le leader de la CCAT, la cellule de coordination des actions de terrain, interpellé ce mercredi matin avec 10 autres militants. La CCAT, c'est cette organisation indépendantiste qui porte l'opposition au dégel du corps électoral depuis le début des affrontements en Nouvelle-Calédonie il y a un mois. 11 de ses membres donc en garde à vue et Lizzie Carboni, le procureur de la République de Nouméa, a donné plus de précisions sur les motifs de ces interpellations.
Ces arrestations s'inscrivent dans l'enquête ouverte par le parquet depuis le 17 mai dernier, précise donc le procureur de la République. Les chefs d'accusation sont nombreux. On peut citer notamment association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime ou d'un délit, vol avec armes et en bande organisée, destruction de biens par incendie en bande organisée ou encore complicité par instigation des crimes de meurtre et tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Les personnes arrêtés sont donc en garde à vue et ces dernières peuvent aller jusqu'à 96 heures maximum, soit 4 jours. À noter qu'au centre-ville, rue Frédéric-sur-Lau, ce matin, les alentours de la caserne de gendarmerie Meunier ont été sécurisés grâce à la présence de gendarmes, de barrières anti-émeute et d'un drone qui survolait les environs. Car selon nos informations, c'est en effet à cet endroit, à la caserne Meunier, que les prévenus ont été conduits.
Dans un communiqué, les indépendantistes de l'Union calédonienne dénoncent des arrestations abusives, tout en appelant au calme et à, je cite, ne pas répondre à la provocation. Même appel au calme du côté des loyalistes et non-indépendantistes qui saluent, eux, ces interpellations. 9 personnes sont mortes en Nouvelle-Calédonie depuis le début des émeutes mi-mai. Nouvelle-Calédonie où les enfants et adolescents reprennent petit à petit le chemin de l'école. Rentrée progressive à partir de demain jeudi pour les 350 collégiens de la FOI. C'est en province sud. Alors pendant ce mois de fermeture, Thomas Long, le directeur de l'établissement, est resté en contact régulier avec les enseignants. Et si l'inquiétude est palpable au sein de l'équipe, personne ne manque à l'appel.
On a prévu la première heure de cours qui va se faire jeudi avec les 6e, 5e et vendredi avec les 4e, 3e. Un temps avec le professeur principal qui a pour objectif de rappeler aussi les notions, les règles, les missions de l'école. On ne va pas s'attarder à récupérer les émotions des élèves ou en tout cas leur parler politique ou ce qui s'est passé en termes d'événements. Ce n'est pas notre métier et on ne sait pas le faire. Par contre, s'il y a des jeunes élèves ou même adultes qui ont besoin de parler, on aura des temps dédiés, mais en individuel. On ne le fera pas en groupe.
Des propos recueillis par Julie Straboni. Et puis on part en Martinique où les apiculteurs se mobilisent pour mettre en valeur leur savoir-faire. Avec 250 apiculteurs, 15 000 ruches sur l'ensemble du territoire, la profession se développe mais manque parfois d'espace. Reportage Martinique Première de Christine Cupit.
Nous allons commencer par ici, qui a des operculateurs qui servent à enlever la couche protectrice de cire qui se trouve sur le cadre de miel.
Franz Fonrose a installé sa miellerie à Ducos, quartier Mornevert, un local d'une vingtaine de mètres carrés dans lequel se trouvent plusieurs cuves pour l'extraction et la maturation du miel.
Nous allons transférer dans les maturateurs. Les maturateurs, ce sont ces grosses cuves qui vont permettre de stocker le miel pour permettre au miel de se décanter, de se débarrasser de toutes ces impuretés, des parchemins de bois, des petites poussières.
Franz Fonrose possède des ruches dans la mangrove, mais également ailleurs.
J'ai plusieurs ruchers. J'ai déjà un miel qui vient du François. C'est une autre variété de miel. Là, c'est un miel de forêt sèche qui aura un autre goût, un autre parfum. Et c'est comme ça pour tous les miels. C'est ça qui fait la valeur et la richesse de nos miels en Martinique. C'est cette diversité de parfums. On a dénombré à peu près une douzaine.
En Martinique, on dénombre près de 250 apiculteurs et 15 000 ruches sur l'ensemble du territoire. Mais la profession manque parfois d'espace pour développer l'activité. Jean-Pierre Jorite, président de l'Association de développement de l'apiculture martiniquaise.
Les apiculteurs ont besoin d'espace pour déposer les ruches. Dès qu'il s'agit de forêt, on trouve des accords avec des propriétaires qui nous autorisent à déposer des ruches. On trouve des endroits pour mettre des ruches. Mais on cherche encore parce qu'il faut installer la nouvelle génération, la relève. N'empêche qu'il reste en Martinique beaucoup de surface vaste, non utilisée, non exploitée par l'apiculture.
La ville de Ducos a mis en place un programme alimentaire territorial pour favoriser l'installation des exploitants agricoles, développer les circuits courts et distribuer les produits locaux dans les cantines. L'apiculture fait partie des priorités.
Et c'est la fin de cette édition. Très bonne soirée.
Merci beaucoup, Odana Géali. Bonne soirée à vous.
Le Conseil Santé avec Suno Assurance.
Et on passe donc au Conseil Santé de Caroline Paré aujourd'hui avec le docteur Guillaume Davido, conseil concernant la dépendance aux jeux d'argent.
Docteur Guillaume Davido, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre addictologue à l'hôpital Bichat-Claude Bernard à PHP à Paris. Quel risque la dépendance aux jeux d'argent fait-elle peser sur la santé des joueurs ?
Eh bien, avant d'être une dépendance, le jeu fait poser un risque effectivement sur la santé mentale des joueurs, parce que souvent derrière, il y a des complications à cause de cela, des conséquences négatives, de l'isolement social, des problèmes d'argent. Et donc forcément, ça rend les personnes très anxieuses, d'autant plus quand il y a des comorbidités psychiatriques.
Est-ce qu'il est possible de décrocher seul d'une véritable addiction au jeu ?
Oui, c'est plutôt entre guillemets la bonne nouvelle. C'est une addiction, on va dire, qui est plus simple à décrocher seule que les addictions avec substance. Mais je recommande toujours d'avoir quelqu'un pour accompagner ces joueurs-là, parce que c'est toujours très difficile tout seul de mettre en place des choses sans en discuter avec une personne tierce autre que la famille.
Autre que la famille, ça veut dire que ce n'est pas forcément un médecin ou un psychologue ou un spécialiste de la santé mentale ?
Oui, je pense que ça devrait être quelque chose que tous les médecins devraient pouvoir gérer, y compris le médecin généraliste. Le médecin généraliste, il vous demande si vous fumez, si vous buvez, et donc il devrait aussi vous demander si vous jouez.
Est-ce que l'impact et les souffrances, c'est aussi très important, bien sûr, on peut l'imaginer, pas seulement pour le joueur, mais aussi pour ses proches ?
Oui, et c'est d'ailleurs souvent le mode d'entrée dans la consultation d'addictologie, c'est les répercussions sur l'entourage, c'est finalement peu sur la personne en elle-même. Souvent, c'est le conjoint ou la conjointe, très plus rarement les amis, parfois l'employeur. Donc, clairement, oui.
Merci beaucoup, docteur Guillaume Davido. Aujourd'hui, dans Priorité Santé, on parle de la drépanocytose à l'occasion de la journée mondiale dédiée à la lutte contre cette maladie génétique des globules rouges, la plus fréquente à l'échelle planétaire. Crise douloureuse, risque d'infection, anémie. On parlera de l'accès au traitement, puisqu'une grande inégalité existe en termes de prise en charge. Ce sera retrouvé à 9h10 et 1h10, temps universel, et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Merci beaucoup, Caroline Paré. Et on termine cette tranche d'information en écoutant Pomme, la chanteuse française et l'une des têtes d'affiche du festival Solidays qui se tiendra du 28 au 30 juin prochain à Paris. Voici son titre Grandiose.
Depuis que je n'ai pas le droit, je veux un enfant dans le ventre. J'aurais sûrement dû taire parfois l'envie si grande et menaçante. Depuis que mes amis me mentent, qu'ils disent que je suis comme les autres, je veux un enfant dans le ventre, qu'on s'aime, qu'on ait une vie grandiose, grandiose. La vie que j'avais inventée pour toi, la vie qu'on nous vend bien tracée, une vie comme ça n'existe pas. Depuis la première goutte de sang, les bouches qui s'effleurent dans la cour.
écouter Grandiose de Pomme. 24 heures en France, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Valentin Vaner à la réalisation, à Loïc Bussière à la rédaction en chef. Dans quelques minutes, vous allez retrouver Sylvie Berruet pour la dernière édition d'Afrique Soir. Et puis, vous serez avec Juliette Pietraszewski pour l'information de la nuit. Quant à nous, on se retrouve demain, 22h temps universel, pour une nouvelle édition de 24 heures en France.
Appelez-nous, exprimez-vous. Juan Gomez.
Vous souhaitez mieux comprendre et décrypter l'actualité? RFI vous donne la parole. Tous les jours à 8h10 TU, la rédaction répond à vos questions. Rejoignez-nous dès maintenant au 33 9 693 693 70 par courrier électronique, appel au pluriel, .actu@rfi.fr et sur les réseaux sociaux.
Retrouvez dès demain Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI.